Bonjour à vous tous, merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui. Une annonce pour vous signaler la rencontre littéraire qui débute à l'instant à l'Espace Bar. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre pour rencontrer, pour écouter notre invité du jour, Éric Bruchère, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous à l'occasion de l'apparition de son premier roman chez Luce Wilquin. Donc n'hésitez pas à venir l'encourager. C'est souvent au début de son chemin littéraire qu'on a besoin d'être entendu, reconnu, avant de devenir célèbre comme les autres. Éric Bruchère, bonjour.
Bonjour.
Alors, Éric Bruchère, vous êtes enseignant. Votre mission est donc d'ouvrir l'horizon aux élèves, de les pousser à aller de l'avant. Est-ce pour cela que votre personnage principal, Alan, finalement, s'offre une fuite en avant, page après page ?
Bonne question. Je m'y attendais déjà pas, celle-là. Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas consciemment, du reste. Hein. C'est sûr que quand on a 20 ans d'enseignement derrière soi, probablement que ça travaille jusque dans les arrière-boutiques du cerveau. Et donc oui, peut-être qu'il y a une dimension, un souhait de faire réfléchir au fond sur le sens de la vie, finalement, parce que je pense que c'est un peu la thématique du livre.
Alors, sens de la vie qui passe, comme je l'ai dit, par Alan, qui fait une thèse sur Ulysse, une thèse qu'il va devoir interrompre parce qu'il va devoir partir au service militaire. Dès lors, il voit du Ulysse partout, un peu dans sa vie. Vraiment, c'est son point d'ancrage. Est-ce que Alan est un peu lui-même un Ulysse d'aujourd'hui ?
Oui, certainement. C'était un petit peu mon propos. En réalité, cette histoire-ci est extraite d'une précédente histoire qui a avorté. Tout au moins, non, elle n'a pas avorté, puisque ce récit, qui était une histoire dans le précédent roman, je l'ai extrait et j'en ai fait je l'ai développé pour en faire un roman total. Donc, au départ, il n'y a pas cette envie de prendre un grand adolescent ou un jeune, parce qu'il a quand même terminé ses études. Il y a simplement la réalité que j'avais raconté une première histoire qui était une jeune fille qui attendait le retour de son fiancé. C'était donc tel quel, pas terrible. Et puis à un moment, son fiancé revient en lui racontant, en ce qui faisait alors une vingtaine de pages, une course folle après le soleil. Et c'est cette histoire-là que je me suis dit, mon Dieu, c'est ça que je veux écrire, que je dois écrire, et que j'ai continué d'explorer et que j'ai amplifié finalement. Et donc ce personnage qui revient pendant que son amoureuse l'attend, c'était évidemment, c'est une Pénélope qui l'attendait, donc c'était un Ulysse. Et donc j'ai tâché de voir ce que Ulysse pouvait avoir à nous dire aujourd'hui, près de 3000 ans ou au moins 2500 ans après.
Alors votre Ulysse aujourd'hui, eh bien, il est différent de celui d'Homère, parce que finalement vous avez imaginé un héros plus méditatif face à ses déboires et plus contemplatif face à la mer et le ciel, parce qu'il y a une grande poésie dans votre écriture, mais également dans la respiration poétique. Il y a plein de références poétiques.
Oui, c'est vrai que la Mirimbaud traîne un petit peu ses semelles devant, là, en arrière-fond. C'est probablement la poésie qui a donné à ce personnage son envie d'aller chercher ailleurs. C'est vrai qu'il est dans son milieu nanti, dans lequel il finit par étouffer, tout au moins milieu nanti qui ne lui donne pas satisfaction de ce qu'au fond de lui il cherche. En réfléchissant à Ulysse, je me suis toujours rappelé que Ulysse est le personnage d'abord de la mémoire, celui qui n'oublie jamais de revenir chez lui, de revenir en son royaume. Alors bon, j'ai la culture que j'ai les aspirations que j'ai, mais j'ai souhaité retraduire ce royaume-là, Ithaque, chez Homère, en un royaume intérieur finalement. C'est la quête du royaume intérieur. Donc oui, en effet, il y a une démarche parfois méditative qu'on retrouve d'ailleurs dans son périple au travers d'une série d'aventures et d'événements qu'il ne demande pas de rencontrer.
Alors la quête de l'intériorité, est-ce que votre personnage principal, Alan, représente un peu la jeunesse désabusée d'aujourd'hui ?
Encore une fois, je ne sais pas si c'est volontaire, mais on peut difficilement s'empêcher de faire un certain rapprochement. C'est vrai que quand je vois mes élèves, je peux presque généraliser, c'est vrai que souvent une certaine jeunesse, quelle que soit sa souche sociale d'ailleurs, faire la fête passe par la beuverie ou par, par l'ivresse. Hein. Alors cette ivresse n'est pas mal en elle-même, je trouve. On cherche tous nos ivresses. Il y a là sans doute des ivresses qui sont mieux ajustées que d'autres. Et c'est vrai que ce personnage, étouffant dans son milieu, eh bien, fait la fête et il disjoncte hein, avec des considérations pseudo-philosophiques ou poético-philosophiques un peu délirantes jusqu'à ce qu'il en ait complètement marre finalement et qu'il soit amené à se barrer hein, pour le dire clairement.
Alors pour lui, l'ivresse eh bien, lui permet de se perdre. Et ça, c'est quand même une notion importante du livre, parce que l'on soit étudiant, ou qu'on soit ancien étudiant ou adulte d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on veut tous se protéger de tout. On a peur, alors que finalement, il faut d'abord accepter de se perdre pour se trouver. C'est un peu cette quête initiative de votre personnage qui va se perdre dans le monde en quittant le service militaire, en devenant un déserteur.
Oui. Vous avez tout à fait raison, c'est juste, vous formulez là presque ce qu'on pourrait... s'il y a une morale, c'est peut-être celle-là, hein, se perdre pour se trouver. Mais bon, je crois que ce n'est pas un livre à thèse morale soutenue et défendue du tout. Ulysse est le personnage en même temps qui se perd, c'est-à-dire c'est le personnage qui perd tout. Qui est dépouillé de tout, jusque tout à la fin, on s'en rappelle, les vieux souvenirs scolaires, jusqu'à perdre son identité, puisqu'il revient en son royaume, méconnaissable, méconnu, sous les traits d'un mendiant. Et donc, il doit prouver quelque chose pour se faire reconnaître dans sa royauté. J'ai tâché de trouver, de translater en quelque sorte cet épisode également, en fin de livre. Se perdre, oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans la presse aujourd'hui, je ne vais pas nommer le journal, mais il y a un article sur un auteur que j'ai beaucoup lu, beaucoup étudié, que j'aime toujours, même s'il n'écrit plus parce qu'il est vieux, c'est Michel Tournier. Et il rappelle dans l'interview qui est faite dans la presse qu'il y a deux types de voyages. Il y a le voyage touristique, au fond, qui est le voyage certainement que l'on fait de façon privilégiée. Et pour cause, c'est le voyage qui nous ramène au point de départ safe. Sain et sauf intact, hein, c'est celui qui nous... Hein, il ne faut pas qu'on soit perdu. Il y a un autre voyage, et il est certainement plus intéressant, c'est le voyage qu'on pourrait nommer initiatique, c'est-à-dire celui qui nous transforme, celui qui fait qu'on ne revient pas au même endroit, celui qui risque, où il y a un risque, le risque étant celui de se perdre, c'est-à-dire non pas se perdre, mais perdre ses repères, perdre celui que l'on croyait être, pour trouver quelqu'un d'autre, l'inconnu au fond de soi ou au bout de soi, tel que je l'ai écrit quelque part. Ça, c'est un voyage plus intéressant, celui qui nous transforme. Si on ne revient pas au même endroit, si on revient au même endroit dans ce voyage-là, au moins, c'est notre regard qui a changé. Et donc, la réalité n'est plus la même. C'est ça que je voulais ajouter.
Alors, la notion du regard est une notion importante, puisqu'à un moment donné, il pense être sauvé grâce à un regard de femme. Et c'est justement un roman sur le regard dans un monde où tout semble devenu unique, et le regard unique, regarder les choses de façon différente et oser les regarder de façon différente.
Encore une colle, merci. Mais le regard prend sans doute différentes formes. Je pense que le premier des regards, c'est celui qui s'oriente vers le ciel, et en l'occurrence ici vers le soleil. Le soleil pouvant être lui-même apparenté à un gros œil qui nous regarde ou qui nous aspire, qui nous attire dans cette attraction solaire. Et c'est de ce soleil-là sans doute qu'il s'agit. Métaphore peut-être de l'absolu, de l'immense, de l'innommable, et sans doute ce qui nous touche, ce qui nous émeut dans un regard humain, c'est sans doute aussi cette part-là impalpable, inaccessible ou insaisissable à tout le moins. Oui.
C'est pour ça qu'à un moment donné, au cours de l'histoire, vous dites qu'il ne faut pas juger, car on ignore toujours l'essentiel d'un homme, les pannes et les tours de son destin.
Oui, c'est le vieil Hollandais volant qui dit ça, alors que mon personnage, Alan, est un jeune gars, au fond, pendant longtemps assez prétentieux, et puis qui arrive à plus d'humilité. Et ça met du temps à travailler hein, à l'orgueil qui est au fond de lui, et qui, quelque part, était très utile, parce que ça fait avancer, au fond, l'orgueil, ça fait aller de l'avant. mais ça enferme parfois dans des catégories, ça enferme les gens surtout dans des catégories, et c'est ça qui est navrant. Alors c'est aussi le parcours du gaillard ici, du héros Alan, c'est d'aller vers plus d'humilité. Hein,
oui. Et cela passe par de multiples rencontres entre les quatre coins du monde. Finalement, rencontre-t-on les gens par hasard ?
Bonne question. C'est la question du hasard. Qu'est-ce que le hasard ? Hein, on peut se satisfaire du mot le hasard, mais est-ce que c'est parfois non pas un cache-misère, mais un cache-mystère ? Hein, qu'est-ce que c'est que le hasard ? N'est-ce pas simplement le terme que l'on utilise pour ne pas avouer qu'on ignore ou simplement qu'on ne sait pas encore ? Donc c'est une bonne question, ça. Je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai qu'il semble bien. Rencontre-t-on les gens par hasard ? Il semble bien. Enfin, moi, c'est mon expérience d'avoir eu ce sentiment que non, certaines rencontres n'étaient pas dues au hasard. Maintenant, il y a peut-être probablement une sorte d'appel inconscient hein, vers certaines personnes et qui trouvent à nous répondre. Mais je pense que le hasard réel existe, mais je pense que ce qu'on prend pour hasard ne l'est pas nécessairement non plus.
Hasard qui vous a porté jusqu'à chez Filigrane un jour où vous m'avez convaincu de lire votre livre qui était noyé, faut-il le dire, dans tous les premiers romans de cette rentrée littéraire. Et vous m'avez séduit, je l'ai lu, et d'où un coup de cœur. Et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Éric Brucher. Pour terminer, avant de faire la lecture, l'immensité de votre personnage passe sur son chemin, sur ses voyages. On peut dire que votre immensité à vous, aujourd'hui, passe par l'écriture et par les prochains livres éventuels qui vont arriver.
Je vais dire oui, mais notamment. Donc c'est vrai que écrire et chercher l'espace, chercher un autre horizon, chercher de l'air, l'écriture le permet. Mais il y a toute une série d'autres modes. C'est une formule parmi d'autres. Hein. D'abord l'espace réel, la nature réelle, les regards réels, l'amour réel. L'écriture, c'est du réel aussi. Donc, oui, l'écriture est une formule parmi d'autres.
Voilà. Et bien, pour terminer cette rencontre, je vous propose de lire un extrait de votre livre. Voilà, je voulais choisir arbitrairement. Donc, un extrait, Soleil devant, premier roman paru chez Luce Wilquin, par vous, Éric Brucher. On est tous tout ouïes.
Donc, c'est ce moment où il a tout quitté, et puis il a traversé la Méditerranée, en bonne Ulysse qu'il est, hein, et il se retrouve sur les côtes nord-africaines. Il décide d'aller vers l'est. Chaque matin, en jaillit le soleil. En réalité, c'est à lui-même qui veut naître tout à fait. Il lui faut remonter le cours des choses, s'approcher au plus près de cette mémoire d'immensité qu'il porte en lui. Ce sont des camions qu'il embarque d'abord. Désormais, il compte cette histoire de pèlerin qui se rend à la Mecque, cette fable à peine inventée que le joyeux Hassan lui avait suggérée sans le savoir. Alors, on le ramasse facilement, il le voit bien. On lui propose parfois l'hospitalité. La religion révèle ici ses bienfaits. Dans les localités qu'il traverse, malgré ce qu'il redoute, Alan apprend les gestes nécessaires de la prière, les avant-bras croisés sur le ventre, main droite posée sur bras gauche, puis main ouverte devant soi, supportant un Coran invisible ou attendant de recevoir quelques possibles manes, et les paumes passées sur le visage, purifiant la pensée et l'inflexion des paroles, les récitations yeux fermés, les génuflexions, le front posé contre le sol. Il possède son tapis, connaît le rituel, les ablutions. Alan vérifie rapidement que cela vaut n'importe quel laissez-passer. Il récite la formule d'adoration. Ashhadu anna la ilaha illallah wa Muhammadan rasulullah. Excusez-moi, je ne parle pas arabe, je bégaye l'arabe. Puis, lorsqu'il marche à nouveau le long des pistes, il répète l'incantation sacrée, pareille à une musique supportant le rythme de ses pas. Il garde son bandeau de cuir sur les yeux, s'aide d'un bâton à présent, il y appuie sa marche. Il a acquis une couverture de laine rayée, roulée sur le sac, qui lui bat la hanche. Quelques provisions de farine, d'huile, de sel, de sucre. Certains matins, un brouillard de bruine installe un froid désagréable, mais dont l'humidité est bienfaisante. Puis le soleil émerge Et Alan marche jusqu'aux trop fortes chaleurs. Il trouve un abri, une fente dans la roche. On s'assoit dans la pierraille, seul au milieu de rien, immobile, fondu dans la patience irréductible du désert, son drap rayé sur la tête. Il a pris l'habitude de se masser les pieds, de les ventiler hors des bottines pour éviter qu'ils enflent trop. Ces bottines qui s'usent, il les rafistole avec un débris de pneus trouvé le long d'une piste. Il croise une troupe de bédouins à laquelle il se joint, qu'il suit 20 mètres en retrait sur les sentiers raboteux, s'exprime par gestes. Il passe pour un fou, sa solitude peut inquiéter. Il rassure avec ses prières et en prononçant « Maka, Maka ». Cela permet d'éviter les questions, l'allure d'un hajj, le pèlerin qui cherche son salut. Le soir, les mélopées de la prière près des feux, puis roulées en boule dans le manteau. On lui tend des morceaux de viande cuites au bout d'un bâton, fortement boucané, dur, de la chèvre. Il mâche des graines longtemps avec leur pelure amère, une boulette de mastic pénible à avaler. Le thé à la menthe, plusieurs verres, le plus important. Longtemps avant le lever du soleil, repartir. Par bonté, il monte parfois sur un âne, un chameau dodelinant, inconfortable. La troupe s'arrête, il poursuit seul avec des regards d'incompréhension et des bénédictions dans la fournaise des monts éboulés.
Voilà, et pour la suite, eh bien, n'hésitez pas, Soleil devant, paru chez Luce Wilquin, par Éric Bruchère. Éric Bruchère, un très très grand merci.
Merci Pascal.